Grand pays d'Amérique latine, le Brésil est un pays dont on parle beaucoup, mais qui est finalement peu connu. C'est pourtant le pays qui a la frontière la plus longue avec la France, avec la Guyane. C'est aussi un pays au paysage extrêmement varié. L'Amazonie, bien évidemment, une région côtière, et puis des villes importantes qui concentrent plusieurs millions d'habitants. Le Brésil est un pays dont on parle parce qu'il a des liens très importants et historiques avec la France. On se rappelle bien évidemment de Fernand Braudel, mais ceux-ci ont continué au long de l'histoire. Et donc c'est du Brésil que nous allons parler aujourd'hui avec deux invités qui connaissent très bien le Brésil, une pour y être née et un autre pour y vivre depuis de nombreuses années. Hervé Théry, donc, d'être géographe, professeur à l'Université de Sao Paulo et directeur émérite, directeur de recherche émérite au CNRS, et Nelly de Mello, originaire du Brésil, également professeur à l'Université de Sao Paulo. Et vous avez consacré plusieurs ouvrages au Brésil, notamment un atlas du Brésil qui est régulièrement réédité, ainsi que Le Brésil, paru chez Armand Collin, qui lui aussi est très souvent réédité. Peut-être première question pour commencer cette émission sur le Brésil. Comment est-ce qu'on pourrait présenter ce pays aux Français qui en ont tous entendu parler, mais qui le connaissent assez mal? En quelques mots, le Brésil, qu'est-ce que c'est comme pays?
La première chose, c'est un pays très grand. Il faut avoir ça en tête, puisqu'on a en tête les échelles européennes. Il faut se rappeler que le Brésil, c'est 15 fois la France et 2 fois l'Union européenne. Donc c'est plus un continent qu'un pays, bien qu'il ait une forte unité. Et par ailleurs, c'est un pays assez fascinant parce qu'il est à la fois proche de nous culturellement. On y parle une langue latine, la religion, le droit, tout ça est assez proche de nous. Mais en même temps, c'est assez différent pour être fascinant. Donc c'est pour ça que depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, je cesse de l'étudier, de m'émerveiller, de découvrir des choses sur ce pays, donc proche et lointain à la fois.
Notamment en termes de population, il y a eu, enfin, c'est aussi son histoire, différentes strates entre les populations d'origine indigène et puis la venue d'Européens, des Allemands, des Italiens.
Alors les Portugais d'abord qui l'ont découvert, on dit plus découvert parce que les gens qui y habitaient ont toujours dit on était là avant, on n'a pas été découvert en fait. Donc il y a une arrivée des Portugais pendant 3 siècles. Le Brésil a été une colonie portugaise et c'est après son indépendance en 1822 que sont arrivées effectivement des vagues d'immigrants de différents pays européens, puis du Japon aussi, principalement à l'époque pour la culture du café. Donc effectivement, il y a une très grande diversité d'origine. J'oubliais les esclaves africains qui sont aussi une composante importante. Donc c'est un pays très composite avec des gens de toutes origines.
Et les Libanais également, puisque l'ancien président Michel Temer était d'origine libanaise.
Oui, il y a une forte immigration de gens qu'au Brésil on appelle génériquement des Turcos, des Turcs. Parce que quand ils arrivaient sous passeport ottoman, ils avaient effectivement un passeport turc, mais ce sont des Libanais, des Syriens, enfin des gens d'origine, qui sont d'autant plus visibles que beaucoup sont dans le commerce, puis après dans la politique, donc c'est une minorité très, très visible et très active.
Carlos Ghosn, d'ailleurs, est né au Brésil.
Exactement,
Avant
c'est un de ceux.
d'avoir l'activité qu'il a eue. Alors, le Brésil est très vaste, vous l'avez dit, c'est un continent. Comment est-ce qu'on se déplace essentiellement? Par avion, je suppose? Est-ce qu'il y a aussi des trains, des autoroutes?
Alors des trains, non, très peu, ça a été quasiment abandonné pour de mauvaises raisons. Jusqu'à il y a assez peu de temps, le moyen de transport principal était l'autobus à longue distance. Mais en 2011, on sait exactement quand ça s'est produit, pour la première fois, il y a eu plus de gens qui ont voyagé en avion, grâce aux compagnies low cost maintenant, qu'en avion. Et c'est heureux parce que quand on allait, par exemple, dans la ville de São Paulo ou de Rio, beaucoup d'employés de maison, des domestiques, sont du Nord-Est. Et elles mettaient 3 à 4 jours, ou 3 à 4 jours et 4 nuits pour rentrer en bus. C'était très très long et maintenant on fait ça en 2 heures d'avion. Donc ça a quand même bien changé la vie des Brésiliens.
Alors vous avez évoqué le Nord-Est, si on schématise un petit peu le Brésil, les principales régions, les principaux grands ensembles de ce pays continent.
Si on parle d'une région, on peut avoir différents. Mais normalement, on voit trois. Le nord-est, les centres-sud, où sont les villes les plus importantes, et l'Amazonie. Mais on peut découper encore plusieurs fois. Normalement, on parle de deux Brésils. Il y a plus que ça. L'Amazonie tellement différent, mais à une transition entre les centres-sud, les grandes villes, la production agricole, les centres-ouest, pour arriver jusqu'à l'Amazonie, qui c'est la forêt. De l'autre côté, le nord-est, qui est très très sec, qui des paysages très différents, mais aussi des activités économiques qui sont un petit peu différentes.
Et est-ce qu'il y a une opposition entre la côte et l'intérieur du pays? Est-ce que c'est pertinent, cette répartition territoriale?
Ah oui, si. C'est possible de dire ça parce que toute la colonisation, comme on disait avant, est arrivée par la côte. Et après qu'il y a entré, si on parle des fonds pionniers, par exemple, on peut les parler depuis les débuts, parce qu'ils étaient toujours de la côte vers l'intérieur. Alors, il y a toutes les grandes villes, la majorité des villes brésiliennes, elles sont dans un rayon de 100 km, de 150 km de la côte vers l'intérieur.
Alors, vous avez évoqué l'Amazonie et les fronts pionniers. On va y revenir justement parce qu'on va essayer de voir si les clichés ou ce qu'on en entend parler correspond à la réalité et voir également comment les choses ont évolué quand on fait des études de géographie, que ce soit au lycée ou quand on est étudiant. L'étude des fronts pionniers brésiliens, c'est souvent un passage obligé par lequel tout étudiant passe. Qu'en est-il aujourd'hui de cette question des fronts pionniers? Est-ce que c'est toujours une réalité? Est-ce que s'ils existent, est-ce que c'est différent de ce qu'ils faisaient il y a 20 ou 30 ans? Comment est-ce qu'ils sont organisés?
Alors on peut comprendre pourquoi c'est étudié, c'est que c'est à peu près les seuls au monde, c'est les derniers endroits au monde, avec certains endroits d'Indonésie ou de Malaisie, où effectivement on a une avancée au détriment des milieux naturels, de la forêt en général, par la construction de routes, de villes, ça continue à fonctionner, et au long de ma longue carrière, j'ai vu effectivement des villes naître, des villes que j'ai vues avec 6 maisons de bois quand j'ai fait ma thèse en 75, aujourd'hui des villes de 100 000 habitants. Et donc ça a un côté fascinant pour les géographes, c'est pour ça qu'on insiste autant dessus, c'est qu'on voit un territoire se créer, pour le meilleur et pour le pire, parce qu'on débrasse d'un côté, mais en même temps on implante d'autres choses. Donc ça explique un peu pourquoi on se focalise là-dessus. Est-ce que ça continue? Oui, c'est le mouvement déclenché en 1500 pratiquement, qui continue, avec plus ou moins d'intensité selon les moments. Ça déplace pas des masses énormes de population, beaucoup des migrations se font plutôt vers les villes, mais ça change tellement le paysage et ça modifie tellement l'équilibre du pays que ça vaut la peine de le regarder. Et ça continue à fonctionner. Dans les derniers temps, on en reparlera du déboisement, il s'est accéléré pour des tas de raisons, mais on continue à voir des gens arriver en Amazonie, déboiser, implanter des nouvelles cultures, créer des villes, ouvrir des lignes de transport, tout ça continue à fonctionner.
Ces personnes qui viennent, ce sont des multinationales qui font de l'agriculture ou est-ce que ce sont des personnes individuelles qui voient là un espoir, un peu une sorte de Far West, permet un ascenseur social?
C'est les deux, parce que les multinationales ne viennent pas avec armes et bagages, elles se mettent plutôt dans le commerce, ce qu'on appelle les traders. Donc c'est ça, elles qui financent souvent les coûts de l'installation en partie, et qui achètent les grains. Ils se payent d'ailleurs sur les grains après. Par contre, les gens qui vont sur le terrain, ce sont des Brésiliens. Il n'y a quasiment pas d'étrangers, c'est un nombre absolument infime. Donc ce sont effectivement des gens qui arrivent. Un exemple, une fazenda qu'on suit depuis des années, le propriétaire avait, je me rappelle jamais si son père avait 11 hectares et 12 enfants ou le contraire, mais enfin ça faisait très peu. Et donc son avenir, c'est d'être minifundiste. Et en fait, il a décidé de partir en Amazonie, il est d'abord allé en ville, il a fait un peu d'argent, et aujourd'hui il est à la tête d'une propriété de 13 000 hectares en Amazonie, qu'il est en train de passer à son fils maintenant. Donc il y a encore des gens, en petit nombre, mais qui prennent cet ascenseur social et qui arrivent dans des zones extrêmement peu occupées au départ, dans des conditions très rustiques, c'est vraiment un Far West pour le coup, et qui implantent autre chose. J'ai parfois tendance à dire qu'on passe du Far West au Middle West, Ce qu'on a aujourd'hui dans le centre-ouest, dont parlait Nelly, c'est ça, c'est des paysages qui ressemblent beaucoup, beaucoup au Middle-Ouest américain.
La question du remembrement, de la réforme agraire, c'est toujours un sujet?
C'est toujours un sujet, mais jamais résolu. Parce que pendant très longtemps, on a eu un processus de distribution de l'eau petit. Les gouvernements ont commencé avec des lots de 100 hectares, plus ou moins, et a beaucoup distribué dans les projets de colonisation, etc. Mais après les projets de colonisation, on a eu les projets des assentes périmètres agraires. On appelle assentamientos agraires, périmètres agraires. Alors, ça, évidemment, ça attrait les gens. Ils y vont. Mais ça existe toujours et ça existe un autre mouvement. Ces gens qui arrivent là, normalement, ils n'ont pas beaucoup des sources financières pour commencer. Parfois, ils arrivent à rester pendant longtemps, mais à la fin, ils viennent de vendre son lot. Et ça a un mouvement de concentration de propriété à nouveau. Alors, il y a une distribution et à la fin, une concentration. Le Brésil, c'est un des pays avec des propriétés concentrées vraiment très importantes.
Et une des particularités que les Français ont du mal à percevoir, c'est qu'il n'y a pas vraiment de cadastre au Brésil, ce qui fait qu'on n'a pas d'idée réellement de la façon précise dont ça se passe. C'est entre les mains des cartoles, c'est l'équivalent de nos notaires, sans centralisation. Ce qui fait que ça ouvre la porte à toutes sortes de manœuvres douteuses, des terres qui sont vendues plusieurs fois, des gens qui ont des terres dans plusieurs endroits pour échapper aux quelques lois qui existent de cumul. Et donc c'est une situation extrêmement confuse et qui reste confuse parce que beaucoup de gens intéressent qu'elle le soit.
Nelly de Mello ?
Oui, je voudrais compléter ça. Il y a encore au Brésil beaucoup de terres publiques qui ne sont pas avant, on appelait terres de volute, et aujourd'hui elles sont à la main de l'État. Mais que même l'État, il ne connaît pas vraiment quelle est la taille, où elles sont. Et ça fait aussi un autre mouvement, qui c'est des gens qui accaparent la terre. On appelle les grileiros. Et c'est pour ça qu'il n'existe pas un cadastre, parce que c'est mieux ne rester pas sans savoir combien de gens, où elles sont, quelle est la taille des propriétés. Et avoir encore cette possibilité d'accaparer les terres publiques.
Et ça n'est pas d'aujourd'hui, puisque Pierre Mombec, qui était dans l'équipe qui a fondé l'Université de Saint-Paul, avec Brodel, Bastide, Lévi-Strauss et les autres, parlait déjà de ça dans les Fronts Pionniers du Café. Et le mot « grileiros », ce serait l'équivalent des grillonneurs. Parce que les gens, en fait, faisaient de faux titres de propriété, et pour qu'ils aient l'air plus vieux, ils les enfermaient dans un tiroir avec des grillons, de façon à ce que le papier soit un peu rongé, un peu sali, un peu abîmé, pour pouvoir le présenter après comme un titre authentique.
Alors, en termes agricoles, qu'est-ce qu'on produit sur ces fonds pionniers ? C'est de l'élevage bovin ? C'est du soja ? Des oranges ?
Les trois. Les trois. Ce qui a beaucoup, beaucoup progressé depuis les années 70 vers le centre-ouest, c'est-à-dire au nord de Brasilia et vers l'ouest, au nord-ouest. Ce qui domine, c'est une association dominée par l'association du soja, sur la saison des pluies, et dans l'intersaison, puisque le climat tropical n'ayant pas d'hiver, on peut planter autre chose, on plante après ou du maïs, ou du coton, ou parfois de l'engrais vert. Ça, c'est un système. À côté, c'est pareil, il y a un système d'élevage bovin. Ça, c'est ces deux-là qui sont les plus forts et qui font l'essentiel des fronts pionniers. L'orange dont vous parlez, c'est plutôt dans l'État de São Paulo, au sud, et qui est très puissant aussi, et qui est de plus en plus maintenant concurrencé par la canne à sucre. Donc, comme on le disait, il y a une très grande diversité régionale. Donc, il y a un système nord qui est soja, maïs, coton, et plutôt dans le sud, canne à sucre, orange.
Et le café, ce n'est plus d'actualité ?
Alors si, mais il s'est déplacé aussi, puisqu'il y a eu des grandes gelées dans les années 70. Il a pratiquement quitté l'État de São Paulo et Paraná, et il est parti dans le Minas Gerais. Les fronts pionniers existent aussi.
Minas Gerais, c'est
un petit peu plus au nord. C'est l'état des mines générales. C'était un état plutôt minier, mais qui est devenu aussi un état agricole et qui produit l'essentiel du café brésilien aujourd'hui, qui est premier producteur mondial de café.
Et l'agriculture, justement, dans l'économie brésilienne, qu'est-ce que ça représente en termes de richesse, en termes de population employée ?
Alors, population, c'est de moins en moins, puisque ça s'automatise et se mécanise. En gros, on dit que c'est à peu près un tiers du PIB en comptant tout, c'est-à-dire l'ensemble du système agro-industriel amont, les engrais, les machines, etc., l'agriculture proprement dite et la transformation. Donc c'est un tiers du PIB, c'est beaucoup moins maintenant que les services et l'industrie, mais c'est une grosse partie des exportations, donc c'est vital pour le Brésil.
Alors abordons maintenant la question amazonienne. Là aussi, c'est un nom qui fait toujours un peu rêver parce que on imagine une forêt vierge et primaire à perte de vue. Ce territoire amazonien, il est immense. Est-ce qu'il est uniforme? Est-ce que c'est partout une forêt? Ou est-ce qu'il y a une diversité de paysages, de plantes?
On ne peut pas dire extrêmement varié, mais c'est varié. Il y a la forêt, il y a la savane, il y a déjà les aires qui sont mises en valeur par l'agriculture. Je dis mises en valeur, peut-être on pourrait dire, mais la forêt, elle a son valeur aussi. Mais pas découvert jusqu'à aujourd'hui, surtout pour les populations brésiliennes. Les gens qui y habitent respectent beaucoup la question de la forêt, les modes de vie dans la forêt. Alors on peut voir cette diversité, et aujourd'hui l'Amazonie est surtout des villes. Il y en a beaucoup de villes petites ou grandes dans la région. Alors, je me rappelle de notre collègue géographe, Bertha Becker, qui disait que l'Amazonie est aujourd'hui une forêt urbanisée.
Et le climat est un climat chaud et humide?
Oui.
Climat équatorial, c'est-à-dire qui varie très peu en température dans l'année, avec des précipitations pratiquement toute l'année. Il pleut un peu tous les jours, pas tout le temps. Donc, c'est vraiment un climat très, très, là, pour le coup, relativement uniforme.
Alors, cette question des fronts pionniers de l'Amazonie pose aussi la question du développement. On l'a vu au moment des incendies à l'été 2019, le gouvernement brésilien, à tort ou à raison, a réagi aux injonctions occidentales en considérant que c'était de l'ingérence sur leur territoire. Dans ce rapport est complexe, on comprend d'un côté la nécessaire protection de la forêt, et de l'autre on comprend aussi que des populations veuillent les mettre en culture et avoir accès à un développement économique et humain. Comment est-ce que c'est vu au Brésil et comment ce rapport est organisé?
Je vais commencer pour dire que c'est vraiment, pour les gouvernements et beaucoup des Brésiliens, c'est de l'ingérence politique étrangère. Les gens disent, comment que ces gens, surtout s'ils viennent d'Europe, des positions, vision, regard européen, c'est l'Europe a tout coupé, ses forêts, etc. Et maintenant, elles disent à nous de ne pas couper. Alors, il y a un côté de la population brésilienne qui dit ça, et surtout les gouvernements. Normalement, les gouvernements disent, dans les Nations Unies, ils disent toujours, la première chose que les gouvernements brésiliens disent, c'est, écoute, on prend les principes 21, de la carte des nations, qui c'est la souveraineté nationale. Alors, ça, c'est presque un tabou. Et à chaque fois que quelqu'un d'autre origine dit il faut faire attention, les gens répètent c'est de l'ingérence. Et c'est vraiment très difficile. Mais il y a un autre côté, il y a des gens au Brésil qui ne pensent pas que c'est une ingérence, qui pensent que aujourd'hui, par exemple, s'il y a des problèmes environnementaux dans le monde et l'Amazonie représente une force, un jeu très important, il faut la conserver. Pas avec des grilles, mais il faut la conserver, trouver une autre façon, un autre modèle de développement, parce que ces développements qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui, ils peuvent être différents. Il ne peut pas continuer comme ça par toujours, parce qu'il aura toujours la population qui a bien gagné avec ça, bien bénéficié, mais il a un autre côté, la pauvreté qui est au même temps, et dans la région aussi. Alors c'est toujours très difficile de faire penser un nouveau modèle de développement.
Avec-y. Si Nelly commence à parler de ça, ça va être long, parce que c'est le sujet de sa thèse, l'environnement et développement de l'Amazonie brésilienne. Non, je voudrais citer effectivement la phrase d'Emmanuel Macron était malheureuse, c'était vraiment le chiffon rouge qu'il fallait surtout pas afficher, ça a presque fait l'unité des Brésiliens derrière leur président, ce qui est bien le seul cas où ça se soit produit. Mais je voudrais citer quelque chose qui est parfois cité, c'est un discours attribué à un ancien ministre brésilien de l'éducation, Cristóvão Buarque de Holanda, qui aurait dit dans une université brésilienne, faut-il internationaliser l'Amazonie? parce que c'est un trésor de l'humanité, oui. Mais il faut aussi internationaliser le Louvre, il faut aussi internationaliser le pétrole. Que tout ça, ce sont des trésors communs de l'humanité, donc ce serait bien que ce soit à disposition de tout le monde. Il n'y a qu'un léger problème, c'est que c'était notre collègue à l'université de Brasilia, quand on y était tous les deux, donc je l'ai félicité pour ce discours, il m'a dit « j'ai jamais dit ça, j'ai jamais mis les pieds dans cette université américaine, mais ceci dit, ce discours est très bien, et je pense que c'est vrai ». Alors, comme on est quand même souvent mis en tant des Français qu'on vit au Brésil, on a de temps en temps ce genre de questions. Je dis oui, c'est absolument exact, sauf qu'effectivement, les trésors du Louvre sont accessibles à tout un chacun. Et donc, le côté internationalisation n'est peut-être pas la bonne idée, mais on peut réfléchir en termes communs à la préservation de ce bien, en laissant sous souveraineté brésilienne, ce qui a en principe été le plan français, qui n'a pas été vraiment très explicité, mais il est tout à fait regrettable de détruire une très grande biodiversité dont on est bien loin d'avoir fait l'inventaire pour faire des champs de soja ou des pâturages médiocres pour le bétail. Donc il y a vraiment un équilibre à trouver entre les deux, ce qui est d'autant plus plausible que c'est immense, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a largement la place en Amazonie pour garder des réserves intactes, élever des bœufs, faire du soja, réserver des terres pour les Indiens, accueillir des petits paysans, il y a largement la place pour tout ça. C'est l'Amazonie brésilienne seule, c'est plus grand que l'Union européenne, pour une vingtaine de millions d'habitants. Donc c'est pas une espèce de maximalisme des deux côtés, on ne touche à rien ou on défriche tout, alors que manifestement, il y aurait, avec un zonage raisonnablement fait, la possibilité de faire tout ça.
Est-ce que ça existe ou est-ce qu'on peut imaginer une sorte d'ONF à la brésilienne chargée de la protection de la forêt amazonienne et de son organisation? Parce qu'on sait bien qu'en France, les forêts, elles sont vivantes, elles sont replantées, elles sont...
Alors ça a été créé sous le mandat de Lula, par la ministre amazonienne de l'Environnement, Marina Silva. Le Service National Forestier a été créé. Mais il n'a pas du tout la même puissance que l'ONF, ni le même héritage, et là, il est en train d'être complètement démantelé actuellement.
Alors, les populations qui habitent en Amazonie, vous l'avez dit, il y a 20 millions d'habitants, c'est un peu moins que Sao Paulo, d'ailleurs, Sao Paulo, c'est 25 oui. millions environ, donc pour un territoire plus grand que l'Union européenne, on voit que les densités sont faibles. Ces populations, est-ce qu'elles vivent là volontairement, si on peut dire, ou parce qu'elles sont un peu... n'ont pas la possibilité d'aller ailleurs. Est-ce que pour elles, l'Amazonie, c'était un territoire de développement et de vie, ou est-ce qu'elles souhaitent au contraire en partir, un peu comme on connaît les campagnes en France dans les années 50-60?
Alors, l'Amazonie attire plus qu'elle n'expulse. Hein. Les gens qui se déplacent vers l'Amazonie sont plus nombreux que ceux qui en sortent. Et en revanche, il y a des migrations internes. L'état de l'Amazonas, celui où est Manaus, a connu une implosion totale, c'est-à-dire que les gens quittent les régions périphériques, les bords des fleuves, et se rassemblent à Manaus. C'est devenu dramatique avec le développement de la grande zone industrielle de la zone franche. L'état d'Amazonas est passé par ce processus d'exode rural qui se produit dans d'autres endroits aussi, mais il n'y a pas les gens, enfin, individuellement peut-être, mais pas en masse, ne quittent pas l'Amazonie. Il y a en revanche des gens qui viennent d'ailleurs s'installer en Amazonie.
Et cette ville de Manaus, elle est récente, c'est un peu comme Brasilia dans sa conception?
Non, elle date du XVIIe siècle, 1649 si je me souviens bien. C'est un fort portugais qui a été installé avec des missions jésuites autour. Enfin, c'est vraiment une colonisation européenne tardive, mais avant ça, il y avait des millions d'habitants qui étaient là. Les anthropologues, les historiens et les archéologues se disputent encore pour savoir combien il y en avait, mais il y en avait beaucoup, et beaucoup ont disparu. Pas spécialement de mauvais traitements, mais surtout par la contagion, comme dans tout le reste de l'Amérique du Sud, d'Amérique latine en général. Et donc ça s'est développé plus récemment. Il y a eu un boom au moment du caoutchouc, on en parle de temps en temps avec la construction d'un opéra somptueux, mais le développement vraiment récent, c'est l'installation de la zone franche qui permet d'importer des matériaux, des pièces de l'étranger, de les monter, et de les distribuer dans tout le Brésil, c'est l'équivalent de ce qu'on a au Mexique sous le nom de maquiladoras. Et donc ça a provoqué un très grand développement. Aujourd'hui, c'est 2 millions d'habitants.
Alors l'Amazonie, c'est aussi un fleuve, enfin l'Amazone. Ce fleuve, est-ce qu'il est intégré dans l'espace? Est-ce qu'il sert pour la production hydroélectrique, ou est-ce que c'est plutôt une barrière et une zone infranchissable?
L'Amazone, le rio Amazonas, c'est... vraiment difficile de les
Canalisé,
non, c'est immense. Pendant l'époque des pluies plus intenses, il devient plus grand encore. Mais il y a toute une discussion sur pour profiter de ces ressources pour la production d'énergie. Il y a toujours dans les rivières qui forment la bassine, les bassins amazoniens, il y a des rivières qui sont déjà utilisées pour la production hydroélectrique, mais qui a fait quand même, si on prend les anciens barrages, il a eu beaucoup de mal, ces anciens barrages, à promouvoir, il y a eu des impacts très très importants, soit dans les systèmes naturels, mais aussi pour les gens qui habitaient à côté. Il y a eu des déplacements des gens par la formation de nouvelles villes pour les gens qui étaient dans la région du lac qui est formée dans ces barrages. Alors, aujourd'hui, les potentiels hydroélectriques du bassin amazonien est le plus grand à développer. Mais il y a toujours la question des déplacements des gens, la taille de barrage, quelle rivière qui peut utiliser, les modèles des grands barrages pour des petits barrages. Tout ça, c'est un sujet qui passionne beaucoup de gens, mais qui fait aussi, ne fait pas la unité. Hein. Il y a beaucoup de conflits.
Alors, on évoquait également les villes brésiliennes, Sao Paulo, Rio, qui sont les deux principales villes les plus connues. On imagine évidemment les problèmes que ça pose en termes d'aménagement, en termes de disponibilité, de déplacement des populations. Est-ce qu'il y a là aussi une réflexion sur la manière dont la ville est organisée, sur la territorialisation de la ville et sur la façon dont les populations cohabitent les habitants
C'est un très très gros problème, et je cite parfois quelque chose qui va vous paraître hors du contexte, c'est une phrase de Jean Cocteau qui disait « Ces mystères nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs ». On a parfois l'impression que les maires ou les autorités des grandes villes essaient de courir après un développement encore fort, encore anarchique, avec des résultats inégaux. On fait maintenant 15 ans qu'on habite à São Paulo, et c'est toujours le cas où dès qu'il pleut, il y a des inondations, les feux rouges s'arrêtent, il y a 5 millions de voitures et environ 800 de plus par jour. Donc c'est vraiment des villes très 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 difficiles à organiser, à planifier et à vivre. Quand on vient à Paris, par contraste, on trouve que la vie parisienne est beaucoup plus facile. Je pense que c'est des villes qui ont dépassé leur niveau optimal, et ça se voit par le fait que leur croissance a ralenti et qu'on assiste maintenant au développement d'activités économiques dans les villes moyennes, parce qu'on a atteint un niveau tel que ça n'est plus raisonnable. Sans compter les problèmes de violence ou autres qu'ils ont avec. Donc là, il y a vraiment un problème mondial des très très grandes villes. Je pense que Mumbai, comme on dit maintenant, Pékin et d'autres villes dans le monde ont les mêmes problèmes. Mais là, on est vraiment arrivé à un niveau de saturation dans beaucoup de domaines qui posent problème.
Et pourtant, si les populations quittent les campagnes pour aller en ville, c'est qu'elles doivent penser, à tort ou à raison, qu'elles auront une vie meilleure.
Alors ça, c'est un petit peu dans le passé. L'exode rural, c'était dans les années 60 à 80. Maintenant, les campagnes ont déjà atteint un niveau de population relativement faible, sauf les zones pionnières dont on parlait tout à l'heure. La croissance des très grandes villes aujourd'hui est très limitée. C'est plutôt, les gens ne sont plus attirés par les grandes villes, s'ils vont plutôt vers les villes moyennes quand ils le peuvent.
S'ils habitent là, s'il faut continuer à habiter, c'est parce que c'est là que se trouve l'activité économique et l'emploi.
Oui, et quand je faisais ça au moment où il y avait encore d'exode rural, la réponse qu'on me donnait quand je parlais aux gens pourquoi vous voulez en ville, la réponse était toujours la même, pour mes enfants. C'était pas tellement la possibilité d'avoir une vie facile, ils savaient qu'ils étaient destinés à aller dans les favelas, dans les bidonvilles, etc. Ils avaient deux meilleures chances de trouver une activité qu'à la campagne, mais ce serait très très précaire. Mais ils voulaient surtout que les enfants puissent aller à l'école. C'était vraiment une des grosses motivations. Et grosso modo, ça a marché, c'est-à-dire que les gens maintenant qui habitent dans les villes ont moins d'enfants, mais leur font faire des études, donc ça c'est en train de changer. Enfin, c'est un schéma à peu près qu'on a connu en Europe au fil des années, il y a vraiment cette mutation de la façon dont on envisage la vie. À la campagne, beaucoup d'enfants, c'est des ressources, en ville, c'est plutôt un soin qu'on doit avoir et un coût.
Et pour l'État brésilien, le gouvernement brésilien, est-ce qu'il y a une tentative d'aménagement du territoire et de développement des villes moyennes, justement, pour éviter une trop forte concentration urbaine dans ces grandes mégalopoles?
Là, c'est difficile. Il y a eu, d'abord, les Brésiliens, en gros, et son gouvernement représente ça aussi, c'est, on n'a pas une coutume de planification. On fait des plans et après, on les refait vite fait. Alors, les gouvernements, on a eu pendant très longtemps des débats, des essais de faire une politique nationale des aménagements de territoire et on n'a pas arrivé au bout. Je dis on parce que moi, j'ai participé de ça en période, dans la contemporanéité, à l'époque où j'habitais Brésil, et on a essayé. Il y a toujours... les gouvernements n'ont pas la force suffisante pour faire des incentives ou pour faire des incentives pour que les gens aillent faire une activité économique ou d'autres dans un endroit ou d'autre. Il y a eu plusieurs exemples. Le Nord-Est, il y a eu des incentives pendant une période. L'Amazonie elle-même, il y a eu des incentives pendant d'autres périodes. Mais ça ne marche pas comme une politique d'aménagement. C'est vraiment côté national. Côté municipal, par exemple, à São Paulo, il existe aussi une volonté de faire et quelques instruments de gestion urbaine qui c'est possible de dire qui est d'aménagement. Mais il n'existe pas comme une priorité du gouvernement.
Alors, également, le Brésil et ses voisins, tout à l'heure, on parlait de l'Amazonie. L'Amazonie n'est pas présente qu'au Brésil, mais recouvre aussi d'autres pays. Si on prend la frontière avec la Bolivie, par exemple, la frontière est assez extensive et il y a un mouvement du Brésil aussi pour empiéter sur le territoire bolivien. Est-ce que le Brésil se voit comme une puissance régionale ou comme quelqu'un qui veut compter au niveau de l'Amérique latine?
Alors oui et non, c'est-à-dire qu'il y a une expansion naturelle par sa puissance, par ses produits, etc. Les pays voisins utilisent des produits brésiliens, enfin, il y a vraiment une espèce d'attirance, mais en même temps de distance. Hein. Dans un colloque qu'on avait organisé, il y avait des Péruviens qui parlaient de la richesse et de la puissance d'un état périphérique amazonien, et les gens du centre du Brésil étaient absolument stupéfaits, mais c'était un effet de contraste. Et les Péruviens disaient, bah, écoutez, vous savez, nous, en Amazonie péruvienne, par rapport au Brésil, on est un peu dans la situation, en prenant une image, de la petite souris qui dort dans le même lit qu'un éléphant. Tant que tout va bien, mais si par malheur il se retourne au milieu de la nuit, ça peut être dramatique pour nous. Donc il y a cet effet de puissance par la masse, près de 210 millions de Brésiliens, une puissance économique, industrielle et autres assez forte. Il n'y a pas de volonté de conquête, mais il y a des débordements. La Bolivie est un cas, mais avec tout l'est de la Bolivie autour de Santa Cruz qui est sous influence brésilienne, tout l'est du Paraguay, pratiquement tous les pays voisins ont une expansion de gens qui s'installent, qui cultivent des terres, etc., sans volonté de conquête. Il n'y a pas de volonté d'annexion, mais c'est une espèce d'expansion qui continue le mouvement pionnier au-delà des frontières, avec des réactions parfois assez fortes selon les endroits. Il n'y a guère que la Colombie où ça ne se produise pas, parce que la situation de guerre civile faisait que là, ça n'attirait personne.
Et avec le Venezuela et la crise actuelle au Venezuela, quels sont l'état des relations? Est-ce qu'il y a l'accueil également de populations vénézuéliennes qui quittent le pays?
Oui, il y en a. Et ça préoccupe beaucoup, beaucoup les Brésiliens parce que ça concerne les États amazoniens du Nord. Avec un peu une absence de perspective, il y a une centaine de milliers, je crois, de Vénézuéliens qui sont passés là, alors qu'il y en a des millions qui sont partis dans les autres pays. Donc le Brésil a commencé à s'inquiéter de son voisinage quand les Vénézuéliens ont commencé à arriver. Mais je dois dire que je ne sais pas bien ce qui se passe, parce que autant les médias français et brésiliens parlaient beaucoup du Venezuela il y a encore quelques mois, là c'est le grand silence, on ne sait plus ce qui se passe, il faudrait aller voir sur place, mais c'est passé par un haut et des bas. Du temps de Lula et de Chavez, c'était une grande amitié, au point que le Brésil a fait le forcing pour faire admettre le Venezuela dans le Mercosur, dans le marché du Sud, ce qui est un peu étrange vu sa position. Mais depuis, ça s'est complètement arrêté. On parle même de l'expulser. Enfin, la conjonction politique qu'il y avait est passée au contraire en opposition absolue entre Maduro et Bolsonaro.
Alors on va terminer cette émission avec les relations avec la France. J'ai dit en introduction, le Brésil est le pays avec lequel la France a la frontière la plus longue, avec la Guyane, et les relations ne sont pas toujours optimales. Il y a eu de grands échanges intellectuels, on a cité Fernand Braudel et la venue d'universitaires au Brésil et qui ont contribué à fonder ou à développer le monde universitaire. Et puis aujourd'hui, des relations qui sont un peu plus refroidies, notamment sur la question de l'ingérence amazonienne. Quel est l'état aujourd'hui des relations franco-brésiliennes?
Il y a quelques années, il y avait eu un salon du livre. Le Brésil était le pays invité. J'avais été invité à une table ronde. J'ai tout de suite accepté, vu le titre de la table ronde, qui était « Péripétie amoureuse de la relation franco-brésilienne ». C'est un côté « je t'aime moi non plus ». C'est vrai, ce sont des relations très affectives. Je ne dis pas ça parce que j'ai épousé une Brésilienne. C'est pas la seule raison. Mais c'est vrai qu'il y a des relations très fortes, culturelles, de bonne image mutuelle des deux pays, des réalités économiques. Pratiquement toute la distribution, la grande distribution au Brésil, est entre les mains de Carrefour ou de Casino, dans les deux noms, Carrefour sous son enseigne, et Casino sous d'autres enseignes, le groupe Accor, Peugeot, il y a une assez forte présence, et en général, tout ça se passe très bien. Il y a eu un épisode, effectivement, inédit pour moi, j'ai jamais vu une relation aussi tendue, il y a eu des petits accrochages au moment du non-achat du Rafale, mais ça c'était assez vite passé, de l'avion de chasse, mais là, en ce moment, il y a vraiment une forte opposition. L'interprétation qu'on en a, Nelly et moi, c'est que c'est assez commode pour le président actuel de se payer un pays moyen, ça ne coûte pas cher, il ne va évidemment pas se fâcher avec les États-Unis, la Russie est bien loin, et donc taper sur la France, ça lui permet de satisfaire ses supporters, un peu comme fait Trump de son côté. À côté de ça, il y a des relations très puissantes. Par exemple, le Brésil a trouvé des grandes réserves de pétrole qui pourraient en faire un des grands producteurs mondiaux de pétrole en offshore. Et ils se sont rendus compte que pour protéger ces gisements, il fallait absolument développer la marine. Et c'est un contrat qui a été passé pour 4 milliards d'euros avec la France. Donc il y a des sous-marins en construction au Brésil par des Français qui vont transmettre la technologie non nucléaire. Il y a des accords militaires nombreux, il y a des accords culturels très nombreux. Donc je pense qu'il faut faire un peu le gros dos et attendre que ça revienne, puisqu'il y a quand même une très forte communauté de pensée, de vision du monde qui reste présente.
Et avec le Portugal, est-ce qu'il y a encore des relations aujourd'hui, l'ancienne puissance coloniale, qui est d'ailleurs devenue beaucoup plus puissante, c'est-à-dire un cas, enfin avec les États-Unis, c'est finalement un des rares cas dans l'histoire où la colonie a dépassé le colonisateur.
Oui, mais les relations elles sont très bonnes. Il y a toujours un échange entre les deux. Et pas, de temps en temps, il y a les Brésil attire beaucoup les Portugais et vice-versa. À ces moments-là, je pense que c'est des Brésiliens qui viennent au Portugal. Et parfois, ça fait un petit peu de difficultés en arrivant. Mais en gros, en général, la culture portugaise, elle est là. Elle a fait partie de notre formation. Des Portugais ont vécu là-bas. Il y a des flux de migrants de temps en temps. Et évidemment, il y a le Brésil et le Portugal font partie de 9 pays de langue portugaise. Il y a une communauté de langue portugaise qui se renforce pendant toutes les périodes. Alors, les relations, elles sont bonnes.
La seule anicroche, c'est que les Brésiliens racontent beaucoup d'histoires de Portugais qui sont exactement les mêmes que nous racontons sur les Belges. Donc, ça met un peu d'animation dans les réunions luso-brésiliennes. Bon, les Portugais sont habitués, donc ils répondent du tac au tac. Mais ça traduit, au-delà de l'anecdote, c'est un peu ce que vous disiez. C'est le fait que la colonie est devenue plus puissante, donc elle a un regard un tout petit peu condescendant sur le pays d'origine, qui a été longtemps très pauvre, hein, jusqu'aux années 80, le Portugal était beaucoup plus pauvre. Bon, maintenant, il est un peu rattrapé. Et donc, il y a ce côté un tout petit peu condescendant, mais par ça, effectivement, ça fonctionne bien.
Eh bien, merci beaucoup, Hervé Théry et Nelly Demelo, d'avoir évoqué pour conflit ce sujet important du Brésil. Je renvoie nos auditeurs à deux autres émissions que nous avions consacrée au Brésil, que vous pouvez retrouver dans les archives de conflits, une avec Bruno Racouchot et une avec Jean-Yves Carfentan. Nous étions notamment consacrés sur les questions agricoles et amazoniennes. Et puis, je rappelle deux de vos ouvrages qui sont régulièrement réédités, Atlas du Brésil, la documentation française, et Le Brésil, chez Armand Collin, qui permet comme ça d'avoir une actualisation de l'état d'avancement et de développement et de ce pays. Merci pour votre fidélité à nos émissions et à la semaine prochaine.